Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue, merci d'être toujours fidèle au rendez-vous de Métropolez-vous. Aujourd'hui, un numéro consacré à la culture, vaste sujet tant la définition de ce qu'est et de ce que recouvre ce mot s'est étendue ces 30 dernières années. Au-delà du contenu, il y a aussi le rôle que joue la culture dans notre société. Et là aussi, les visions sont très diverses. Plaisir, divertissement, élévation de l'esprit pour les uns, créateur de liens sociaux, outil de communication, de valorisation pour les autres. La culture est-elle une fin ou un moyen? Ça pourrait être un sujet du bac de philosophie. Comme le veut la tradition de cette émission, nous allons nous confronter à cette thématique du point de vue métropolitain en l'abordant à travers une question: la culture, ciment et vitrine de la métropole. Pour répondre à cette question, nous recevons le vice-président de Toulouse Métropole chargé de la culture, Claude Rénal, que je salue et que je remercie très chaleureusement parce qu'il a eu l'amabilité de trouver du temps dans son agenda très chargé pour être présent dans ce studio aujourd'hui. Claude Rénal, vous êtes également sénateur de la Haute-Garonne depuis 2014 et vous avez été maire de Tournefeuille pendant 18 ans, de 1997 à 2015. Quand on regarde votre parcours, on est bien sûr impressionné par celui que vous avez fait en tant qu'élu, mais aussi par ce qui précède votre entrée en politique, puisqu'après des études d'ingénieur, vous avez entre autres dirigé deux entreprises. Et puis il y a quelque chose d'assez singulier dans ce parcours, c'est qu'à l'âge de 40 ans, vous avez préparé le concours de l'ENA. Alors je voulais savoir ce qui vous a motivé pour tenter et réussir le concours de l'ENA à la quarantaine.
À 37 ans en réalité, bonjour à tous. 37 ans, bon, c'est un moment assez classique, 35, 40 ans, où chacun s'interroge sur ce qu'il fait, ses goûts, une certaine maturité à ce moment-là, et on se repose la question. J'avais fait des études d'ingénieur, j'ai été chargé d'innovation, chambre régionale de commerce pendant quelques années, je me suis passionné pour ce sujet. Derrière, j'ai eu deux expériences économiques, l'une dans l'industrie, qui terminait par une reprise par un grand groupe, c'était négocié dès le départ, et puis ensuite une expérience plus difficile sur la recherche sous contrat à travers une société qui était une filiale à la fois privée et puis à la fois publique avec les universités pour le développement de la recherche et vendre des opérations clés en main. Ça a été un sujet un peu où j'ai été un peu en avance, cette affaire-là, et où pour des raisons de développement peut-être un peu trop rapide et qui avaient posé quelques difficultés, les choses sont pas allées à leur terme. Et donc je me suis interrogé à ce moment-là, tout simplement pour savoir si je repartais en créant une troisième entreprise, une PMI, ou si je faisais autre chose. En même temps, j'étais premier adjoint à Tournefeuille et se profilait l'idée que je pouvais un jour remplacer le maire qui était mon prédécesseur, Bernard Audiger. Et là, je ne voyais pas bien comment je pouvais être à la fois maire et à la fois patron de PMI, quoi. Et j'ai un peu de difficulté là-dessus. À ce moment-là, il y a eu la possibilité qui s'est ouverte à moi de faire une prépa ENA, financée pendant un an. Et je me suis dit, tiens, tu vas commencer par un peu te poser et réfléchir autrement. Et donc j'ai été à Sciences Po Paris et j'ai passé une année à Sciences Po, je me suis régalé pour dire les choses. Puis j'ai passé le concours de l'ENA, j'ai eu la chance de l'avoir. Et donc j'ai poursuivi à l'ENA pendant 2 ans et quelques. Voilà, les choses ont fonctionné comme ça et en rentrant, je suis devenu maire de Tournefeuille. Un parcours un peu singulier.
Voilà, donc aujourd'hui élu métropolitain et à ce titre, je pense que vous devez beaucoup vous intéresser à ce qui se passe dans notre métropole. Nous, on en parle toutes les semaines de l'actualité métropolitaine avec Corinne Saint-Félix qui est à mes côtés dans ce studio. La métropole, son actualité, Métropolez-vous, l'actu. Dans l'actualité de cette semaine, la métropole toulousaine définitivement à la pointe de la technique et de la robotique.
Oui, les 29 et 30 novembre prochains, Toulouse accueille pour la seconde année consécutive le Forum international de la robotique agricole organisé par la société toulousaine Nayo Technologies, spécialiste des robots agricoles. Ce forum rassemble des acteurs internationaux de cette filière, agriculteurs, industriels, médias, chercheurs ou encore institutions pour échanger sur les solutions de robotique agricole existantes et préparer l'agriculture de demain.
Une information qui concerne l'apprentissage maintenant. Depuis plusieurs années, Toulouse Métropole accueille des apprentis au sein de ses services.
Au vu des missions très variées réalisées par la collectivité, les apprentis peuvent se former à des métiers très diversifiés. Avantage de cet apprentissage, celle d'acquérir une première expérience professionnelle pour le jeune et profiter de ce tremplin pour favoriser son insertion professionnelle suite à l'obtention d'un diplôme. L'apprentissage concerne tous les niveaux de diplôme, du CAP au Master 2 ou école d'ingénieur, dans des spécialités très variées, qu'elles soient administratives ou techniques. Le contrat d'apprentissage est réservé aux jeunes de 16 à 25 ans, sauf dérogation spécifique, notamment pour les personnes porteuses de handicap.
Et aujourd'hui, dans quel service un jeune peut-il proposer sa candidature ?
Eh bien, par exemple, sur le site internet, au sein de la Direction Générale Déléguée aux Espaces Publics, Direction des Opérations d'Aménagement, Service Est Métropole, ou encore Chef de Projet Urbain Junior à la Direction Générale Déléguée aux Espaces Publics, pour les grands projets, notamment Toulouse Aérospace, ville de demain.
L'aménagement urbain, un enjeu constant pour l'avenir de la métropole. L'espace nature de l'île du Ramier ouvrira en 2018.
Oui, mardi dernier, Jean-Luc Moudin, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, a lancé une concertation large sur le projet de l'île du Ramier. Ce projet s'inscrit dans le cadre du Grand Parc Garonne et a pour objectif de poursuivre la valorisation des berges de la Garonne. Avec ses 260 hectares de surface, ce poumon vert au cœur de la ville de Toulouse offre de nombreuses perspectives quant à sa reconversion. Une reconversion rendue possible par le déménagement du parc des expositions en 2020. C'est aussi l'un des grands chantiers d'aménagement urbain de la métropole toulousaine, avec une ambition forte, celle d'inscrire un Central Park à Toulouse.
Si je comprends bien, voilà donc de nombreux travaux à l'horizon.
Effectivement, sur le secteur nord du Ramier, l'ancien Dancing ravagé par plusieurs incendies est en cours de démolition. Ce site deviendra un espace naturel avec une ouverture au public prévue à l'été 2018. Les premiers coups de pioche vont s'étaler donc entre 2017 et 2018 avec pour résultat la réalisation d'un jardin public, d'un belvédère en bord de Garonne, mais aussi la remise en état de l'écluse Saint-Michel et le réaménagement des espaces autour de l'émulation nautique. À plus long terme, c'est une grande réflexion qui va se tenir ces prochains mois pour décider des équipements et espaces verts qui viendront remplacer le parc des expositions déplacé à Beauzelle. Dans ce cadre, le projet d'une cité des sports extrêmes a été confirmé par le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudinc. Le projet final veillera à préserver la nature et la biodiversité, mais aussi à engager les activités du futur parc, à faciliter l'accès et à assurer la mobilité, avec une priorité donnée aux piétons et aux vélos.
Claude Reynal, il y a dans ce flash des informations qui ont dû retenir votre attention, même si aucune ne concerne directement la culture. Cependant, il y a été question d'aménagement urbain, et qui dit aménagement urbain dit aussi patrimoine urbain. À la fin de l'année dernière, a eu lieu à Toulouse et dans la région la première biennale du patrimoine urbain, un événement très important dans un domaine qui n'est pas moins pour la métropole et qui vous intéresse depuis longtemps, je crois.
Oui, c'est la première action vraiment concrète qui suit des travaux que nous avions lancés avec Pierre Cohen concernant le dialogue métropolitain qui regroupe donc un certain nombre de, comme vous l'avez dit, d'agglomérations autour de Toulouse. Ce dialogue est extrêmement important pour comprendre comment les villes moyennes qui se situent à une heure de Toulouse doivent tenir compte en particulier du développement extrêmement rapide, extrêmement fort de l'agglomération toulousaine et comment s'adapter au mieux. Nous avons pris un certain nombre de sujets à l'époque et parmi ces sujets, effectivement, la question du patrimoine était une question qui est posée par toutes ces villes moyennes, que ce soit Albi qui l'a réglé pour une certaine partie, mais on voit bien que la problématique est la même à Aude, à Carcassonne, toutes ces villes qui ont un patrimoine bâti important, mais souvent un patrimoine aujourd'hui un peu délabré, vous me permettrez cette expression, et quelquefois vide. C'est un enjeu extrêmement fort que le patrimoine, c'est un patrimoine en réalité utile aussi, de qualité, permettant effectivement de maintenir nos centres-villes, nos cœurs de ville, comme nous les aimons, avec ce patrimoine historique fort qui est vraiment la touche européenne, si je puis dire, mais en même temps pour qu'il qu'il soit fort, ce patrimoine, il faut qu'il soit vivant. Et donc, toutes ces communes s'interrogent toujours sur la façon dont on peut à la fois maintenir, mais redynamiser tous ces centres historiques, et c'est l'objet, me semble-t-il, essentiel de ces premières rencontres. D'ailleurs, il ne faut pas s'y tromper, l'agglomération qui s'est portée candidate sur ce sujet, c'est celle de Cahors, qui a pris en main la logistique, et qui a vraiment pris en compte ce sujet. Voilà, ça montre qu'il y a à la fois un intérêt et une nécessité sur ce sujet.
Alors, ce sujet concerne beaucoup de villes moyennes de la région. Est-ce que la métropole toulousaine peut jouer un rôle là-dedans, les aider, les soutenir ?
Oui, bien sûr. D'abord, en portant les projets. Il est clair qu'une métropole comme la nôtre et le regroupement autour de cette métropole des villes moyennes permet d'avoir effectivement une écoute nationale plus forte. C'est une évidence. Et donc, en jouant groupé, on arrive à avoir un débat avec évidemment l'État, pour ce qui le concerne, dans le domaine du patrimoine, mais également à trouver des procédures et peut-être même à trouver ensemble des systèmes de financement un peu plus solidaires entre nous, pour permettre en particulier à ces villes-là d'émerger. Et c'est très important pour l'ensemble. Il n'y aura pas de Toulouse meilleure au plan touristique si l'ensemble des villes moyennes qui sont autour ne participent pas de ce développement. Quelquefois, sont en avance. Souvenons-nous d'Albi.
Bien entendu. Je pense qu'on s'appuiera sans doute à ce qui s'est fait à Albi pour le dossier de candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO du centre de Toulouse. Ben, le patrimoine, ça va être un sujet sans doute que nous allons aborder dans ce qui est notre grand focus de la semaine, la culture, ciment et vitrine de la métropole.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Et tout de suite, seconde partie de Métropole et vous avec notre invité Claude Rénal, sénateur de la Haute-Garonne, vice-président de Toulouse Métropole chargé de la culture. La culture, ciment et vitrine de la métropole, c'est un slogan qui doit vous parler, si je me réfère à ce que vous avez fait dans ce domaine lors de vos 3 mandats de maire de Tournefeuille. Beaucoup d'événements, de projets, d'actions et d'équipements ont été réalisés dans cette commune durant cette période. En quoi une politique culturelle ambitieuse est-elle nécessaire ? Qu'est-ce que c'est censé apporter à une collectivité et à ses habitants ?
Concernant Tournefeuille, les choses étaient assez simples. Tournefeuille est une de ces villes de première couronne de l'agglomération toulousaine. Et le sujet qui est toujours le même, c'est de savoir si finalement on doit ou non, c'est un débat, donner une couleur à cette commune. Alors, il y a des communes, Colomiers par exemple, qui a fait de l'action sur le sport, une vitrine extrêmement puissante, une volonté finalement d'avoir, à travers la pratique sportive, un développement et puis, comment dire, une reconnaissance par les habitants d'un sentiment d'appartenance. Et on cherche un peu tout ça, c'est-à-dire qu'on souhaite effectivement que nous n'ayons pas chez nous que des gens qui viennent dormir, mais des habitants qui s'inscrivent dans le développement de leur secteur, même si c'est finalement un quartier d'une agglomération toulousaine, c'est bien évident. Mais tout de même, lui donner une couleur. Alors nous avons pris pendant 18 ans avec mon adjointe à culture, Dani Bu, qui est très connu dans le milieu culturel, nous avons pris le parti pris de développer tout ce qui était action culturelle et si possible action innovante, puisque partant de peu, eh bien on avait cette possibilité-là. On l'a fait avec l'usine qui s'est développée à Tournefeuille, les arts de la rue, mais également autour de troupes en résidence très tôt qui sont venues s'installer. Et finalement, on a eu deux choses qui se sont passées. La première, c'est que on a été surtout très ouverts. Donc beaucoup de gens qui s'intéressent à la culture sont venus spontanément à Tournefeuille pour créer, ils ont trouvé là un territoire, un terrain, des élus qui étaient ouverts pour des expérimentations. Donc on en a fait de toutes sortes, on a beaucoup fait voir aux habitants quelquefois. Je me souviens de nuits un peu compliquées, bon, mais c'est comme ça, un peu brillantes, dirons-nous. Et puis ce climat finalement a fait que derrière il y a eu beaucoup de créativité, beaucoup de gens de milieux différents finalement se sont rencontrés, milieux culturels différentes, se sont rencontrées et ont créé ensemble. On donnait de Tournefeuille une image extrêmement forte. au point que la culture est devenue un des critères de choix de pourquoi je viens à Tournefeuille. Ouais. Voilà. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est que nos équipements ont suivi nos actions et pas l'inverse. On n'a pas créé des équipements en se disant après, zut, il faut faire une programmation, comment on va faire? Mais on avait toute la programmation et ensuite on a eu les équipements qui ont très bien fonctionné, que ce soit l'escale ou le phare, par exemple, qui ont été des lieux tout à fait forts pour cela.
Oui, donc l'aspect ciment, lien social et l'aspect vitrine, outil de communication, outil d'attractivité de la culture pour une collectivité, en l'occurrence la Tournefeuille, on est vraiment en plein dedans, en tout cas dans ce que vous avez essayé de faire dans la commune à l'époque où vous en étiez le maire.
Je crois, oui. Ce qui est très important dans la question culturelle, c'est de laisser les acteurs culturels libres d'évoluer, leur donner des moyens, leur donner des capacités à faire. Il faut donner ce terrain et faire en sorte que beaucoup d'acteurs soient présents sur le territoire pour qu'ils se croisent et qu'ils créent ensemble.
Alors, on est allé à la rencontre des citoyens de la métropole toulousaine pour leur poser quelques questions sur l'image qu'ils avaient de la culture à Toulouse, quelles connaissances ils avaient de l'offre culturelle métropolitaine et ce qu'ils en attendaient. On leur a demandé, pour commencer, de citer quelques événements, lieux et structures culturelles de la métropole.
Moi, j'aime beaucoup le cinéma, donc je pense que la ville est très riche en cinéma d'art et d'essai. Cinémathèque, l'ABC, l'Utopia qui maintenant a changé de nom, mais voilà, il y a beaucoup de festivals. Musique du monde et autres, toute l'année, c'est une ville quand même riche culturellement.
Alors il y a Pastombac d'abord, il y a Cine Espagna, il y a le festival de films italiens, du jazz, il y a Piano Jacobin.
Les abattoirs, les Augustins, et après honnêtement, il faut chercher sur internet et sur les différents réseaux sociaux, parce qu'il y a des petits trucs, mais c'est vraiment à chaque fois des spots différents et... On n'a pas de choses qui sont en permanence relayées et ça change tout le temps.
Est-ce que vous fréquentez ces événements et ces lieux culturels ?
Alors, la musique, de préférence, le théâtre un peu moins, parce que j'ai un mari qui s'endort. Qu'est-ce que j'y retrouve ? Un bonheur ? J'y vais pour le bonheur !
Oui, abattoir, oui, assez fréquemment. Château d'eau aussi, des fois, il y a des expos photos pas mal. Faire un break un petit peu par rapport à la vie classique. On ne parle pas assez d'art, selon moi, dans la vie. On est trop sur le technique.
Est-ce qu'il y a des choses qui manquent dans l'offre culturelle de la métropole toulousaine ?
Moi, je dirais peut-être sensibiliser un petit peu plus le grand public à l'architecture.
Ce qui manque, c'est quelque chose de vraiment attractif, un peu comme ils ont fait à Lille, par exemple, en délocalisant certains tableaux du Louvre ou des trucs comme ça. Des artistes majeurs à Toulouse, c'est ça qui nous manque. On ne voit jamais un Picasso, on ne voit jamais un Van Gogh, on ne voit jamais un Warhol. S'ils faisaient une expo avec, je sais pas moi, 7 Warhol, il y aurait la moitié de Toulouse qui viendrait.
Bon, alors, cette dernière appréciation, je trouve, est un peu tirée par les cheveux. Il y a quand même Picasso, justement, il n'y a pas longtemps. Il y a eu des œuvres de Picasso au musée des abattoirs. Et, bon, je ne suis pas certain que Andy Warhol soit un aussi grand artiste que Picasso. Mais voilà, bon, dans ce qu'on a pu entendre, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé? Bon, ce qui ressort, c'est qu'on sent que l'offre est quand même très complète, semble-t-il, à Toulouse, qu'on peut trouver son bonheur dans beaucoup de domaines.
Moi, ce que je crois, c'est qu'effectivement, dans les domaines, les plus classiques, il est certain que l'offre est là. Hein. Il y a des propositions extrêmement importantes. Il y a sans doute une faiblesse aujourd'hui, pas le domaine pour lequel j'ai le plus de préférence, mais c'est un domaine qui est attendu, en tout cas, c'est sur les questions de danse contemporaine, sur laquelle aujourd'hui on est un peu fragile, me semble-t-il. Et en tout cas, il y aurait sans doute à faire plus pour développer la danse contemporaine à Toulouse. C'est sans doute un petit manque. C'est d'autant plus un manque qu'à travers la danse contemporaine, on a beaucoup d'actions qui peuvent être des actions, encore une fois, qui lient les cultures entre elles et pour lesquelles l'art de la danse est un art extrêmement important lorsqu'on veut faire émerger des projets nouveaux. Donc je pense que là, il y a sans doute une certaine fragilité. Il y a sans doute aussi à Toulouse un foisonnement assez étonnant d'artistes, d'artistes confirmés, mais aussi d'artistes en devenir, parce que c'est ça la culture, c'est que c'est pas parce qu'on est petit aujourd'hui et qu'on démarre doucement qu'on ne soit pas demain quelqu'un de reconnu au plan national voire international, donc il faut être sensible à ça. Il y a énormément de propositions, en tout cas. Je ne suis pas sûr qu'il y ait, de la part des pouvoirs publics de manière générale, hein, un bon thermomètre, c'est-à-dire capable de regarder finalement ce qu'on appelle les signaux faibles, quoi, les actions culturelles en devenir, et d'avoir cette capacité à donner à des jeunes pousses prometteuses des moyens d'avancer et de se développer sur Toulouse. C'est sans doute quelque chose qui serait à faire. tant il est vrai que naturellement, si je peux dire, il y a un foisonnement extraordinaire. Moi, je suis toujours frappé par le nombre de troupes, de jeunes équipes qui créent, qui font comme ils peuvent, qui dans des conditions souvent très faibles, à tout point de vue, fragiles, mais en même temps qui amènent beaucoup de richesse à l'esprit toulousain, ce qu'on sent de cette ville. Voilà. Et là, il y a sans doute mieux à faire sur comment les repérer, comment les choisir aussi, parce qu'on ne peut pas évidemment soutenir toutes les équipes, donc il faut choisir celles qui ont vraiment de la capacité, il faut avoir des gens qui soient capables d'évaluer correctement les choses, et là je crois qu'on a un bon travail à faire à la matière.
Est-ce que vous trouvez que la communication autour de l'offre culturelle à Toulouse est suffisamment bien faite ? C'est peut-être pas tout à fait le mot, mais importante en tout cas pour que les habitants de la métropole soient bien informés, qu'ils sachent tout ce qui se passe à Toulouse dans ce domaine, à Toulouse et dans la métropole.
Et la communication, c'est sans limite, c'est sans fin. On est toujours insuffisant en communication parce que le problème, c'est qu'on est couvert de communication. La communication est extrêmement abondante. Oui. Donc la question, c'est d'aller la choisir.
Trouver le bon axe.
Trouver le bon axe. Hein. Donc, et en même temps, est-ce qu'on peut communiquer aussi facilement sur le TNT, la programmation de l'Orchestre du Capitole ? Et puis, le travail de petites équipes qui, quelquefois, ne le souhaitent pas elles-mêmes. C'est-à-dire, ne souhaitent que ça reste une découverte, une recherche, et qu'on vienne vers eux plus qu'ils ne vont vers un grand public. Si vous voulez, ne fût-ce que par leur salle, quelquefois, c'est des salles pour 50 personnes, et que donc c'est inutile de faire une communication trop large. Donc c'est subtil, parce que il y a effectivement du besoin, mais à la fois, il y a aussi, de la part de certains, le souhait que ça reste une découverte.
Il y a quelque chose dont on entend souvent parler dans le milieu culturel, c'est la question du renouvellement du public, attirer de nouveaux publics. Cette question, est-ce que vous l'avez à l'esprit à la métropole et qu'est-ce qui est fait dans ce domaine pour ça ?
D'abord, nous avons à la métropole créé des choses qui n'existaient pas. Hein. C'est-à-dire que nous avons d'abord développé des structures qui n'avaient pas leur place dans les communes. Et donc, nous avons pris en compte donc, le cirque hein, avec la grainerie, les arts de la rue avec l'usine, je le disais. De manière plus compliquée, ce que fait Mixer Miris, où c'est pas encore totalement finalement là, mais où nous avons donc pris des arts un peu émergents et nous les avons développés, nous leur avons donné des moyens pour poursuivre et poursuivre et pour avancer. Donc nous avons su le faire dans quelques cas. Cela étant dit, c'est pas dans l'ensemble des domaines et nous devons effectivement toujours rester ouverts sur ces questions et encore une fois être capable de bien choisir et d'avoir une explication sur pourquoi on choisit. Et ça, de compétences, en tout cas un goût, ça c'est sûr.
Des connaissances dans un domaine éventuellement.
Oui, mais pas... c'est très varié, et donc il faut être capable d'avoir des jurys, d'avoir de l'écoute, et de savoir expliquer pourquoi telle ou telle équipe est suivie, on lui donne quelques moyens, et puis remettre en cause ces sujets. Parce que sinon, on ne fait que, finalement, prendre des équipes, les bloquer d'une certaine façon, et une fois que les financements sont bloqués, ben, il n'y a pas d'autres possibilités pour financer d'autres expérimentations. Voilà. Je crois qu'il y a ça, et puis si vous me permettez un deuxième commentaire. Il me semble que là où on est curieusement un peu en retard, on fait beaucoup depuis quelques années sur la culture scientifique et technique.
Oui. Hein,
à Toulouse, et c'est logique parce que cette ville est une ville à la fois industrielle et à la fois une ville de la connaissance d'une certaine façon. Je crois que c'est assez clair. Mais en même temps, on ne sent pas en matière culturelle le lien entre cette culture scientifique et technique et la façon dont ça pourrait se développer sur le numérique, par exemple. Comment le numérique aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits où il y a des équipes qui, sur le numérique, sont très, très en avant. Finalement, assez peu. L'industrie créative, assez balbutiante encore à Toulouse. Donc, il y a beaucoup de champs d'action sur lesquels la collectivité peut avancer.
Et pour faire de la culture une vitrine de la métropole toulousaine, que ce soit à la fois quelque chose pour s'identifier pour les habitants, mais aussi quelque chose qui rende la métropole attractive pour ceux de l'extérieur, qui la rende plus connue au niveau national, voire international, quels seraient selon vous les grands axes sur lesquels on doit s'appuyer ? Il y en a qui sont existants, peut-être l'Orchestre du Capitole par exemple. Est-ce qu'il peut y en avoir d'autres ?
Oui, bien sûr. De toute façon, vous l'avez dit, j'ai pas répondu à cette question totalement sur les publics et les nouveaux publics. Bien sûr, il faut toujours s'interroger pour savoir qu'est-ce que les nouveaux publics attendent. Par exemple, lorsqu'on parle de musique classique, on a toujours l'impression que la musique classique s'adresse à un public un peu vieillissant. Hein. C'est pas tout à fait vrai, bien entendu, mais quand même, c'est vrai pour partie. Et donc, comment développer et faire en sorte que de nouvelles générations soient intéressées, voire passionnées, parce qu'on doit être passionné hein, par la musique classique, la grande musique, etc. C'est un vrai sujet, comment on les amène à ces questions-là. Et moi, j'en fais un préalable. Par exemple, l'idée d'avoir une grande salle pour la musique classique, c'est une idée qu'il faut avoir, hein, à Toulouse, bien entendu. Mais en même temps, un auditorium, ça n'a de sens que si on amène des nouveaux publics à cet auditorium-là. Alors, faut-il de nouveaux événements ? L'Orchestre du Capitole est un formidable ambassadeur, hein, c'est évident. C'est
international.
Oui, puis c'est aujourd'hui un des deux plus grands orchestres, maintenant, on le dit comme ça, en France, hein, de très grande qualité, grâce à l'action de Tougan Sokiev. Et bien sûr, l'idée d'avoir, ne fût-ce que dans une vision là, plutôt d'appel, hein, un grand événement culturel visible, au moins nationalement, après on verra, c'est quelque chose qui manque, mais c'est aujourd'hui de plus en plus difficile à trouver, parce que beaucoup de créneaux, si je puis dire, ont été déjà pris.
Occupés. On terminera là-dessus, merci beaucoup pour votre venue et cet échange, Claude Rénal. On le sait, en France, la culture a beaucoup à voir avec la volonté et les choix des institutions publiques, elle dépend en grande partie de leur soutien, et c'est un sujet qui donne souvent lieu à des discussions passionnées. J'espère que cette émission n'aura été l'illustration. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupré, à la technique Christophe Aubry. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Passez un bon week-end et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.